monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du jeudi 8 août 2024. En RDC, dans le procès de la rébellion du M23, tous les 26 prévenus, dont Corneille Nangaa, ont été condamnés à mort par un tribunal militaire de Kinshasa. Au Tchad, le rédacteur en chef du principal site d'information arrêté, la profession dénonce une intimidation et un enlèvement.
Notre collègue Badou a été convoqué à la gendarmerie dans un arrondissement de la capitale et puis il a été arrêté et embarqué par des agents de l'Agence nationale de sécurité en présence d'un confrère.
Bello Bakary Mana, président de l'Association des médias en ligne du Tchad, nous en dira plus dans la partie magazine. L'ONU demande un accès aux régions anglophones du Cameroun et l'abrogation d'une loi antiterroriste. Au Royaume-Uni, le premier ministre Keir Starmer a appelé ce jeudi à ne pas relâcher les efforts contre les violences d'extrême droite. Ne manquez pas le journal des Jeux Olympiques de Paris. On commence par un bulletin de nouvelles. En République démocratique du Congo, 26 personnes, dont Corneille Nangaa, ancien président de la commission électorale, ont été condamnées ce jeudi à la peine de mort par la justice militaire à Kinshasa pour leur participation à la rébellion du M23. Les prévenus ont été reconnus coupables de crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel ou trahison selon l'arrêt de la cour militaire de Kinshasa Gombe. Et Bagasikura.
La sentence a été prononcée en l'absence de Corneille Nangaa, l'ancien président de la Commission électorale nationale et indépendante qui a créé depuis décembre un mouvement qui se bat aux côtés du M23 dans l'est du pays. 21 personnes condamnées dans ce procès sont en cavale. Les prévenus ont été reconnus coupables de crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel ou trahison, selon l'arrêt rendu par la cour militaire de Kinshasa Gombe. Kinshasa a levé depuis le début de cette année le moratoire sur la peine de mort. Le président Félix Tshisekedi a deux jours plus tôt accusé dans une interview avec des médias congolais son prédécesseur, le président Joseph Kabila, d'être derrière le mouvement rebelle de Nangaa.
Burundi, des survivants et des proches de victimes du massacre de quelques 160 réfugiés Tutsis perpétrés dans le camp de Gatumba en août 2004 ont déposé plusieurs plaintes pour génocide et crimes contre l'humanité début août. Trois plaintes pour génocide et crimes contre l'humanité ont été déposées respectivement au Burundi, en RDC et au Rwanda et également auprès de la Cour pénale internationale. Ces plaintes formellement contre X citent les noms d'Agathe Gaton Rwasa, ex-chef des Forces nationales de libération, une rébellion burundaise et exclusivement Hutu, et de son porte-parole, pasteur Abimana, qui avait revendiqué le massacre dans les médias, puis affirmé que sa voix avait été imitée lors de la revendication radiodiffusée. Le rédacteur en chef du site tchadinfo.com, principale plateforme d'information en ligne du pays, a été arrêté mercredi, a annoncé l'Association des médias en ligne du Tchad. Les précisions de John Needle.
Ce mardi 7 août, Badour Oumar Ali a été convoqué à midi par la police judiciaire. Peu après son arrivée, il a été embarqué par des hommes armés, encagoulé et conduit à la direction générale de l'Agence nationale de sécurité à bord d'un véhicule banalisé, assure l'Association des médias en ligne du Tchad. L'organisation dénonce un acte d'intimidation et d'enlèvement qui constitue une atteinte grave à la liberté de la presse et aux droits humains et exige la libération immédiate et sans condition de leurs confrères. Fin juillet, le site d'information a déjà été suspendu pendant 4 jours. Reporters sans frontières avait alors dénoncé cette suspension comme un levier de pression sur les médias et constitue un précédent dangereux. Tchad Info est le premier média d'information au Tchad. Il comprend un site web, une radio et une télévision.
En Guinée équatoriale, un défenseur des droits humains connu, Joaquim Elo Ayeto, est détenu depuis une semaine chez lui à Malabo et est détenu par la gendarmerie. Il affirme qu'il est allé demander de l'aide à l'ambassade de France alors que son association n'est pas légalisée, a déclaré son avocat Angel Obama Obiang. À l'issue de sa visite de 2 jours au Cameroun, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme Volker Turk a demandé un meilleur accès aux régions anglophones et a appelé à la révision d'une loi antiterroriste qui, selon certaines ONG, serait utilisée pour faire taire la dissidence. Nathalie Barge.
Volker Türk a déclaré avoir appelé le gouvernement camerounais à faciliter l'accès humanitaire aux zones touchées par le conflit séparatiste. Il a ajouté avoir également exhorté le gouvernement à réviser la loi antiterroriste de 2014 à cet égard. Dans un rapport de 2022, Amnesty International a constaté que la majorité des personnes emprisonnées dans les régions anglophones ont été condamnées en vertu de cette loi. Des informations continuent de faire état de violations des droits humains, l'imposition de jours de confinement par des groupes séparatistes empêchant les enfants de se rendre à l'école et les populations d'accéder à leurs moyens de subsistance est inacceptable et doit être fermement condamné, a-t-il déclaré dans son allocution à Yaoundé. Aucun effort ne devrait être ménagé pour faire taire les armes par le dialogue, l'obligation pour les auteurs de violations des droits humains de rendre des comptes et par des mesures de réconciliation, a souligné Volker Türk. Des milices sécessionnistes combattent l'armée dans les deux régions anglophones depuis 2017, entraînant des milliers de morts et le déplacement de près de 800 000 personnes.
Le gouvernement somalien a approuvé aujourd'hui l'instauration du suffrage direct dans le pays de la Corne de l'Afrique, plus de 50 ans après l'abandon de ce système. Le principe de suffrage universel direct avait disparu après la prise du pouvoir par le dictateur Siad Barre en 1969. L'Agence de santé de l'Union africaine, Africa CDC, va probablement déclarer la semaine prochaine une urgence de santé publique face à l'épidémie de Mpox en cours dans plusieurs pays africains, a annoncé aujourd'hui son directeur général.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le premier ministre britannique Keir Starmer a appelé aujourd'hui à maintenir les efforts contre les violences d'extrême droite qui secouent le Royaume-Uni depuis une semaine au lendemain d'une accalmie marquée par des manifestations antiracistes pacifiques. Eric Manirakiza.
Alors que les autorités redoutaient de nouvelles éruptions de violence mercredi soir, des milliers de personnes ont manifesté dans plusieurs villes contre le racisme et l'islamophobie. Le Premier ministre a insisté sur l'importance de ne pas relâcher la vigilance, annonçant qu'il présiderait une nouvelle réunion de crise avec de hauts responsables de la police. Après avoir visité une mosquée à Solihull, il a réaffirmé la détermination de son gouvernement à poursuivre les efforts pour maintenir l'ordre. Le maire de Londres, Sadiq Khan, a remercié ceux qui ont manifesté pacifiquement, soulignant que la capitale reste unie contre le racisme et l'islamophobie. La police londonienne, tout en saluant cette démonstration d'unité, a néanmoins dû intervenir dans certains quartiers pour contenir des actes antisociaux. À Birmingham et dans d'autres villes comme Brighton et Liverpool, des rassemblements ont eu lieu devant des centres d'aide aux migrants avec des slogans affirmant que les réfugiés sont les bienvenus. Cependant, des tensions sporadiques ont éclaté à Aldershot, où la police a dû s'interposer entre des militants antiracistes et des groupes d'extrême droite. Depuis le début des violences déclenchées par des fausses informations sur l'auteur d'une attaque au couteau à Southport, la police a procédé à 483 arrestations et 149 inculpations. Les premières condamnations allant jusqu'à 3 ans de prison ont été prononcées.
Un haut diplomate américain a prévenu ce jeudi le président vénézuélien Nicolas Maduro qu'il risquait d'unir la communauté internationale contre lui si les autorités arrêtaient les dirigeants de l'opposition. Les États-Unis estiment, comme d'autres pays, que l'opposition a gagné la présidentielle du 28 juillet au Venezuela, mais n'ont pour l'heure pas pris de mesures contre le gouvernement de M. Maduro et laisse, selon M. Mora, le Brésil, la Colombie et le Mexique mener des efforts diplomatiques pour trouver un chemin pour aller de l'avant. L'ancien dirigeant de Catalogne, Carles Puigdemont, a mis fin ce jeudi à son exil volontaire et fait une apparition à Barcelone devant ses partisans avant de s'éclipser pour éviter son arrestation par la police. Et puis, le prix Nobel de la paix au Bangladesh, Mohamed Yunus, a prêté serment ce jeudi en tant que chef du gouvernement intérimaire du Bangladesh, quelques jours après l'éviction de la première ministre Sheikh Hasina. La nomination de M. Mohamed Yunus a été réclamée par les chefs de file de la contestation. présent le journal des Jeux Olympiques avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal des Jeux Olympiques Paris 2024. Pas de finale de 4 x 100 mètres relais dames pour la Côte d'Ivoire. L'équipe composée de Muriel Aouré, Jessica Gouin, Mabundu Kone et Marie-Josée Talou, qui faisait son retour après sa blessure lors de la finale du 100 mètres, a été disqualifiée à cause d'une erreur technique, Muriel Aouré ayant marché sur la ligne. L'Afrique était fortement représentée dans les compétitions de taekwondo. La Gabonaise Emmanuela Atora, le Burkinabé Ibrahim Maïga et l'Égyptien Ahmed Nassar ont été éliminés dans leurs catégories respectives. Seule la Tunisienne Shaima Toumi s'en est sortie dans la catégorie des moins de 57 kg d'âme. Grosse affiche en basketball masculin avec les demi-finales. La France fait face à l'Allemagne et les États-Unis affrontent la Serbie. Hier, l'Afrique était partagée entre sentiments de joie et de tristesse lors du 3000 mètres steeple. Le Marocain Soufiane El Bakkali a conservé l'or olympique sur la discipline. La course a été marquée par la chute violente du recordman du monde éthiopien, Lamecha Girma. Abdourahman Dia.
En franchissant la ligne d'arrivée du 3000 mètres steeple en 8 minutes 6 secondes 5 centièmes, Soufiane El Bakkali rentre plus que jamais dans l'histoire. Le Marocain, déjà vainqueur à Tokyo, devient le premier steepleur à conserver l'or olympique depuis le doublé du Finlandais Volmari Isoholo il y a quasiment 90 ans, dans les années 30. El Bakkali, qui apporte la première médaille pour le Maroc dans ses JO de Paris, a devancé l'Américain Kenneth Roof et le Kenyan Abraham Kibiwot. La course a été marquée par la chute violente de Lemesha Girma à l'avant-dernière barrière, à un peu plus de 200 mètres de l'arrivée. L'Éthiopien est arrivé à pleine vitesse sur la barrière et sa jambe droite a heurté la haie et il est tombé au sol. Immobile, il a été conduit à l'hôpital où il a reçu la visite d'une délégation éthiopienne avec en tête Deratou Toulou, ancienne coureuse de fond éthiopienne. Ses compatriotes se disent soulagés de savoir qu'il va mieux.
Oui, nous lui avons parlé et il est en train de se rétablir. Il va de mieux en mieux. Nous sommes heureux qu'il se rétablisse et qu'il soit en bonne santé. Le travail d'équipe n'a pas fonctionné, mais il se rétablit et nous en sommes heureux.
Lamecha Girma a quitté l'hôpital et a regagné le village olympique où il se repose selon la Fédération éthiopienne d'athlétisme. Le porte-parole du Comité international olympique, Mark Adams, ajoute qu'il va bien.
Nous savons qu'il est en bonne santé, nous lui envoyons notre sympathie, nous espérons qu'il va bien et qu'il se rétablira très très rapidement. Nous avons tous vu cela, personne n'aime voir un tel accident, c'est totalement inattendu.
Lamecha Girma, triple vice-champion du monde et vice-champion olympique, était en quête d'une première médaille d'or dans les Jeux olympiques.
Toujours hier, Hugues Fabrice Zango s'est qualifié pour la finale du triple saut. Le Burkinabé, champion du monde en titre et recordman de la discipline en salle, a assuré sa place en finale en réalisant un bond de 17,16 m lors des qualifications. Par contre, pas de finale de 110 mètres haies pour Louis-François Mendy. En demi-finale, le coureur sénégalais a réalisé une performance de 13 secondes 34, finissant troisième de sa série. De son côté, le Botswanais Letsile Tebogo, candidat alors olympique sur le demi-tour de piste, a coupé la ligne d'arrivée du 400 mètres en 19 secondes 96, s'offrant le meilleur temps des demi-finales devant l'Américain Noah Lyles, sacré champion olympique du 100 mètres. Toujours hier, en basketball féminin, il n'y a pas eu de miracle pour le Nigeria. En demi-finale, la marche était trop élevée face aux États-Unis, septuple tenant du titre. Les Nigérianes se sont inclinés devant les Américains 88 à 74. Le Nigeria était déjà entré dans l'histoire en devenant la première équipe africaine, tous genres confondus, à atteindre les quarts de finale en basketball dans les JO. Les Américaines vont affronter en demi-finale les Australiennes qualifiées pour leur première demi-finale des JO depuis 2012. De leur côté, les Belges champions d'Europe en titre affrontent vendredi la France. Voilà, c'est tout pour ce journal des JO de ce jeudi 8 août.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le rédacteur en chef de tchadinfo.com a été arrêté mercredi soir par la police judiciaire, suscitant des accusations d'intimidation contre la liberté de la presse et des appels à sa libération immédiate. Pour savoir les circonstances entourant l'arrestation de M. Badou Oumar Ali et comment cette situation illustre les défis actuels auxquels sont confrontés les médias tchadiens en matière de liberté de la presse, Eric Manirakiza, adjoint à Montréal au Canada, Bello Bakary Mana, président de l'Association des médias en ligne du Tchad.
Écoutez, plus de détails que ça, je n'en ai pas présentement. Tout ce qu'on sait, c'est que l'Association des médias en ligne a été informée que notre collègue Badou a été convoqué à la gendarmerie dans un arrondissement de la capitale. Et puis, il a été arrêté et embarqué par des agents de l'Agence nationale de sécurité en présence d'un confrère. C'est ainsi qu'il a été conduit à l'Agence nationale de sécurité. Et on a essayé d'entrer en contact avec les responsables pour leur demander c'est quoi les raisons, en essayant de leur expliquer que la place du journaliste n'est pas en prison et il ne devait en aucun cas être arrêté par les agents de l'ANS pour n'importe quelle raison. Ça ne devait pas se faire comme ça. Vous savez qu'au Tchad, on fait face à un grand défi ces derniers temps. Vous êtes au courant que les médias en ligne sont les médias les plus, disons, les plus en vogue, les plus en vue. C'est eux qui portent la nouvelle et c'est eux qui font la nouvelle. Et on ne sait pas pourquoi il y a une espèce d'acharnement envers les journalistes des médias en ligne et les journalistes en particulier. De toute la presse tchadienne. Ça illustre l'état dans lequel les journalistes tchadiens en général et les journalistes en ligne en particulier font face. Nous voilà sortis d'une transition et les vieilles habitudes n'ont pas changé jusqu'à aujourd'hui. On est en 2024 et les journalistes tchadiens continuent à se battre pour une presse libre et indépendante. Particulièrement à l'association des médias en ligne que je dirige comme président, on s'est donné comme objectif de se battre sur tous les sujets qui concernent la liberté de la presse. Et vu la situation actuelle, nous sommes inquiets de la tournure des événements. En principe, ça devait être à la sortie de cette transition, tout devait être apaisé et que les journalistes devaient vaguer à leurs occupations dans un système qui a abandonné ses vieilles méthodes et ses vieilles habitudes. Hélas, nous constatons que ça continue et donc il faut se battre chaque jour.
Bello Bakary Mana, président de l'Association des médias en ligne du Tchad.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Les autorités sanitaires de l'Est de la RDC sonnent l'alerte face à la propagation de l'épidémie de Mpox. Le virus est déjà signalé dans des camps de déplacés autour de la ville de Goma, provoquant l'inquiétude des médecins et des déplacés de guerre. Reportage de Zanem Neti Zaidi, notre correspondant à Goma.
Foura Jacqueline, femme déplacée et mère de 8 enfants, semble préoccupée par l'état de santé de son fils, qui présente des signes de Mpox, anciennement connu sous le nom de variole du singe. Son fils a des éruptions cutanées et des maux de tête. Elle révèle que c'est la deuxième fois qu'il contracte la maladie.
On m'a dit que mon fils avait la variole du singe. Nous avons cherché des médicaments et les lui avons donnés, mais ils ne les guérissent pas. Nous sommes même allés au dispensaire et lui avons donné un autre médicament qui a fonctionné, mais la maladie est revenue.
Les déplacés des guerres vivant dans la promiscuité dans les camps des déplacés autour de la ville de Goma sont les plus touchés, comme l'a révélé Moussekou Rateo, un responsable des déplacés du territoire de Nyiragongo, qui a appelé les autorités à prendre des mesures pour stopper la propagation de la maladie.
Dans les camps que je contrôle, on estime à 24 le nombre de personnes déplacées déjà infectées par le virus du Mpox. Je demande aux autorités de voir comment elles peuvent envoyer des équipes dans les camps pour commencer à vacciner, en particulier les enfants, afin d'enrayer la maladie.
À l'hôpital général de Nyiragongo, nord loin des camps des personnes déplacées au nord de la ville de Goma, une course contre la montre est engagée pour répandre efficacement la propagation de cette maladie. Des tentes ont déjà été installées par l'hôpital avec les soutiens d'organisations humanitaires pour isoler et traiter les cas confirmés. José Badiambila, médecin directeur de l'hôpital général de Nyiragongo.
Ici, c'est la salle des soins. Où s'il y a un patient qu'on a déjà vu qu'il faut l'observer, c'est ici où ce patient-là arrive. Bien sûr, il y a les staffs qui est là 24 heures sur 24 pour prendre en charge ces cas-là des machines. Si c'est beaucoup par jour, on peut aller jusqu'à 7-8. Mais quand on manque, c'est entre 2-3, des choses pareilles.
Le virus Mpox se transmet par contact direct avec le fluide corporel, les lésions cutanées ou les gouttelettes respiratoires des personnes infectées. Des mesures d'hygiène sont recommandées, en particulier dans les camps des personnes déplacées où de nombreux cas sont signalés. Mais les personnes déplacées estiment que ces mesures sont difficiles à respecter en raison du manque d'eau. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Politique américaine, maintenant que les candidats démocrates et républicains à la présidence ont choisi leur colistier, la question est de savoir si ces choix contribueront à augmenter les chances de gagner les élections de novembre. Veronica Balderas Iglesias de la VOA examine la pertinence des candidats à la vice-présidence et ce que Tim Walz et J.D. Vance apportent. Son reportage est relaté par John Lindon.
C'est avec une grande confiance dans sa décision que la vice-présidente Kamala Harris a présenté le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, comme son colistier mardi en Pennsylvanie. Kamala Harris, candidate démocrate à l'élection présidentielle.
Dans son État, il a été un chef d'entreprise moderne et avec son expérience, je vous le dis, Tim Walz sera prêt dès le premier jour.
Le candidat républicain Donald Trump salue également le bilan politique de son colistier, le sénateur de l'Ohio, J.D. Vance. Mais l'ancien président a récemment minimisé l'importance du choix du vice-président.
Je pense que c'est bien documenté historiquement. Le vice-président, en termes d'élection, n'a aucun impact. Je vais dire pratiquement aucun impact. Tout dépend du choix du président.
Les spécialistes estiment que les vice-présidents travaillent dans l'ombre du président des États-Unis. Leur rôle est souvent mal compris et peu apprécié. Ils sont pourtant les premiers dans la ligne de succession lorsqu'un président ne peut plus servir et sont essentiels pour faire avancer l'agenda politique de leur parti. Joël Goldstein, chercheur de la vice-présidence, via Skype.
Their role is really to act as a subordinate.
Le rôle est vraiment d'agir en tant que subordonné, d'aider à promouvoir et à poursuivre les politiques du président et d'accroître la capacité du président à fonctionner en tant que leader national et international.
Dans une certaine mesure, les choix des vice-présidents peuvent donner un coup de pouce aux campagnes présidentielles, estime Joël Goldstein.
Bill Clinton's pick of Al Gore.
Le choix d'Al Gore par Bill Clinton en 1992 était un très bon choix. La combinaison de ces deux jeunes baby-boomers centristes du Sud a vraiment envoyé un message de changement générationnel.
L'analyste a qualifié de mauvais choix la décision du sénateur républicain John McCain de choisir la gouverneure Sarah Palin comme colistière en 2008. Encore une fois, Joël Goldstein.
Elle est vraiment devenue un personnage qui a été parodié pendant la campagne et je pense qu'elle a fini par nuire au ticket McCain. Ce n'est pas la raison pour laquelle le sénateur McCain a perdu.
Pour ce cycle électoral, la campagne de Kamala Harris mise sur les références de Tim Walz et sur son engagement en faveur d'une économie pro-familiale. Elizabeth Clements est sociologue à l'Université de Chicago. Elle s'est entretenue avec VOA via Skype.
Une version pro-famille qui ne concerne pas le contrôle de la reproduction, mais le soutien économique des familles, qu'il s'agisse de l'éducation, des soins de santé, du logement ou du développement de l'emploi.
Selon l'analyste Peter Lodge, J.D. Vance contribue à faire avancer le discours républicain. Peter Lodge, directeur de l'École des médias et des affaires publiques de l'Université George Washington, il répond via Zoom.
L'histoire qu'il raconte, c'est qu'il y avait autrefois une Amérique où l'on pouvait réussir si l'on travaillait dur, si l'on respectait les règles, si l'on était une famille de classe moyenne qui travaillait dur, et que cette Amérique a disparu et que si vous votez pour eux, cette Amérique reviendra.
Même si les candidats à la vice-présidence font rarement la différence lors des élections, les analystes affirment que les électeurs américains seront attentifs à la manière dont les vice-présidents actuels vont écouter les électeurs et canaliser leurs préoccupations.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Les Jeux olympiques à Paris, c'est aussi l'occasion de rassembler et de célébrer toutes les cultures africaines. À la Station Afrique installée sur l'île Saint-Denis, plus d'une vingtaine de pays du continent africain sont représentés. Non loin du village olympique, des milliers de personnes font le déplacement dans cette fan zone pour tenter d'apercevoir les athlètes africains, mais aussi profiter des concerts, des stands et des animations sportives et culturelles. Le reportage de notre correspondante à Paris est l'âme le cœur.
Depuis deux semaines, le Club Afrique attire des milliers de personnes, de quoi donner le sourire aux dizaines d'artisans.
L'échange culturel est indéniable par rapport à ces Jeux, parce que j'ai remarqué dans le QG de Saint-Denis, on a rencontré des athlètes qui sont venus à notre grande surprise. Dans leur détente, ils ont vu « waouh, waouh » des Américains qui sont venus « waouh, waouh » des Hollandais. C'est ça la richesse aussi. Dans les moments où il n'y a pas de compétition, mais nous sommes là aussi pour rayonner notre nation et rayonner le monde par nos savoir-faire. C'est ça la case africaine, c'est ça le village africain.
L'olympisme, ce n'est pas seulement le sport, c'est aussi la culture et l'éducation. Donc nous, on s'est dit de prendre notre responsabilité aussi et de venir vendre la destination Guinée. Vous avez dû le remarquer, nous avons des produits artisanaux qui sont là, mais au-delà de ça, nous vendons la destination Guinée parce que notre pays, il est beau. C'est un paradis, donc il faut le visiter. Donc c'était une opportunité de venir exposer et faire en sorte que les gens découvrent davantage notre cher pays.
Le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc ou encore l'Algérie. À la Station Afrique, chaque journée est consacrée à un pays en particulier du continent. Ce soir-là, la culture congolaise est à l'honneur.
Voilà, c'est un projet qu'on travaille depuis deux ans avec la ville et monsieur le maire. Et vraiment de voir tous les habitants, avec les amis, les voisins, venir célébrer voilà, toutes les cultures africaines ensemble, c'est juste merveilleux. Voilà, le vivre ensemble et le partage des cultures.
Un brassage culturel qui enflamme tous les soirs la scène de la Station Afrique où de nombreux artistes font leur show. Youssou N'Dour, Oxmo Puccino, Magic System, Black M ou encore Friendlish, et les visiteurs sont forcément ravis.
Si moi on m'avait dit qu'à l'île Saint-Denis j'allais avoir 3000 personnes qui viendraient danser le soir, j'aurais signé directement, c'est exceptionnel. Du coup je viens profiter de l'ambiance, tout le monde est heureux, tout le monde est content de venir, se rassembler, c'est génial.
C'est à vivre une fois dans sa vie. Franchement, c'est un coup, je suis pas branché sport, mais à vivre au moins une fois dans sa vie. La vérité. Écoutez le son.
Je connaissais pas, c'est la première fois que je viens et franchement, ça serait bien qu'il y ait ça plus souvent.
Ça me donne envie de voyager et de voir les différentes cultures africaines dans les pays. Ouais.
Un voyage à la découverte de toute la richesse du patrimoine culturel africain, proposé jusqu'à dimanche prochain, dernier jour des Jeux Olympiques. Et l'âme le cœur pour VOA Afrique Paris.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne écoute radiophonique à tous.